Avant d'ouvrir la parole, on va prier aussi. Seigneur, encore une fois ce matin, nous te bénissons pour ton appel sur nos vies, ta présence dans nos cœurs et ton esprit qui nous a interpellés pour venir nous réunir ensemble, avant tout pour louer, glorifier ton nom, mais aussi pour recevoir de toi, entendre ta parole, pour qu'elle continue, Seigneur, de nous modeler, de nous travailler, de nous édifier pour ressembler à ton Fils. Merci aussi pour la table que tu as dressée pour nous. Nous te bénissons et nous te demandons que nous soyons pleinement disponibles pour recevoir de toi tout ce dont tu veux nous faire part. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors, je vous propose deux textes ce matin. Je ne sais pas dans quel ordre ils ont été mis, alors c'est d'abord lequel. Premier texte dans Romains 5, les versets 1 à 8. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. La deuxième lecture se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, les versets 5 à 42. C'est Jésus, il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire « je n'ai pas de mari », car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, « je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est Jérusalem. » « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Alors arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu ?» ou « De quoi parles-tu avec elle ?» La femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le priaient en disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun travail. D'autres ont travaillé, et c'est dans leur travail que vous êtes entrés. » Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Passage qui est très long, mais je trouve dommage de le couper. Ça mériterait d'être mis en scène, un tel passage. Dans la Bible, on voit souvent se dérouler des rencontres autour d'un puits. Alors c'est vrai que on est là dans des régions où l'eau courante n'existe pas, et où les femmes et les enfants vont puiser l'eau dès le matin ou en fin de journée. On évite en général entre midi et 2, hein, vous comprenez bien pourquoi. Il fait beaucoup trop chaud. Et ces rencontres qui se passent autour du puits sont des occasions pour échanger des nouvelles avec les voisins, les amis. Jésus va rencontrer la femme de Samarie, établir un dialogue avec elle, plein, vous l'avez vu, de malentendus et de sous-entendus aussi. Et c'est une méthode qui est souvent employée par l'évangéliste Jean pour suggérer son message, en fait, pour nous dire des choses qu'il n'écrit pas forcément. Alors, il va nous permettre, dans ce texte, de distinguer les différentes barrières que franchit Jésus et aussi ce que le thème de l'eau peut symboliser pour évoquer le don de Dieu. Et on a déjà une première partie de ce thème-là développée dans la liturgie ce matin, avec le thème de l'eau vive. Jésus est venu pour révéler le don de Dieu, et il le fait en utilisant des images. Ici, c'est celle de l'eau. La semaine passée, c'était son corps et son sang comme nourriture et comme breuvage. C'est ce même don de Dieu qui est développé par Paul dans l'Épître aux Romains que j'ai lu tout à l'heure. Alors évidemment, je n'aurai pas le temps de tout vous dire sur ce texte, mais quand même, on va tenter d'en tirer quelques leçons pour nous aujourd'hui. La première des choses qui me frappe, c'est qu'il y a dans ce texte 3 barrières qui séparent les acteurs. La première barrière, c'est celle de la nation et de la religion. Jésus est juif et la femme est samaritaine. Ces deux peuples ont la même origine et ils adorent le même Dieu. Mais l'histoire les a séparés et leur religion a évolué différemment. On le voit dans la suite, les uns n'adorent qu'à Jérusalem, alors que les autres font leur culte sur une montagne qu'ils considèrent comme sacrée, le mont Garizim. Et c'est entre autres pour cette raison principalement que les Juifs pieux rejetaient les Samaritains comme étant idolâtres. La différence religieuse a entraîné des cultures différentes, le mépris des uns et la rancune des autres. Alors on a l'impression de relire notre propre histoire, hein ? On a connu ça entre protestants et catholiques, par exemple. Jésus franchit cette barrière et, au grand étonnement de la femme, lui adresse la parole. Elle lui dit d'ailleurs « Comment peux-tu me parler à moi qui suis samaritaine ?» Eh bien oui, il le peut, et il le fait. La deuxième barrière qui se dresse, elle se dresse entre hommes et femmes. L'évangéliste Jean écrit que les disciples, quand ils reviennent, sont étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Et c'est un étonnement qui est à la limite du choc. Hein. C'est pas juste « oh bah tiens, qu'est-ce qu'il fait ?» On voit quand même qu'ils n'osent pas lui demander, hein. Mais ils sont étonnés. Alors évidemment, on est dans une culture là où les choses sont très bien distinguées, hein, très bien séparées. Aujourd'hui, on a peut-être peine à retrouver cette distinction parfois. On a quand même vécu, il n'y a pas si longtemps dans notre propre histoire, hein, une époque où les écoles n'étaient pas mixtes, par exemple. Ou bien une époque où les hommes et les femmes n'étaient pas assis côte à côte pendant le culte. Ça arrive encore dans certaines églises, hein. On voit que cette méfiance, en fait, entre les uns et les autres, la peur parfois de l'autre, forme aussi une barrière que, là aussi, certains s'évertuent encore à bétonner. Hein. Mais Jésus franchit cette barrière en établissant avec cette femme une relation qui est saine, où on peut parler de sujets importants et vitaux, sans qu'il y ait de sous-entendus, comme on voudrait parfois nous le faire croire. Il n'y a pas de sous-entendu, c'est une discussion entre deux êtres humains. La troisième barrière se dresse entre la femme dont la vie familiale est chaotique, c'est le moins qu'on puisse dire, et les habitants de la ville. Et là, on le voit dans des choses qui sont suggérées par Jean, mais qui ne sont pas dites expressément. Par exemple, elle vient puiser de l'eau, elle, à midi. Pas du tout l'heure où on vient puiser de l'eau normalement. Et elle le fait parce que c'est l'heure où elle est sûre de ne rencontrer personne. Elle va être tranquille. Elle ne va pas subir le regard des autres. Elle ne va pas être obligée de répondre à des questions embarrassantes. Et on voit à quel point la rencontre avec Jésus l'a chamboulée et l'a transformée, puisqu'à la fin de l'histoire, c'est elle qui va voir les gens pour leur dire « Cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ce passé dont elle avait honte, tout d'un coup, elle l'assume et elle le dit. Il y aurait beaucoup à dire hein, sur ces trois barrières, mais voilà, je survole. Jésus est un homme libre. Il ne se laisse pas emprisonner par les préjugés, que ce soit nationaux, religieux, raciaux ou sexistes, qui empoisonnent parfois la vie des gens et qui les empêchent de rencontrer les autres. Il est sans agressivité, mais dans le respect. Et en même temps, Jésus ne se renie pas. Et ça, c'est vraiment une parole importante pour nous. On a parfois du mal à être dans cette bonne attitude, ni dans le rejet, ni non plus dans le compromis de laisser penser que tout est pareil. Tout n'est pas pareil. Jésus ne se renie pas, il est dans la vérité, et il ouvre en fait des chemins qui permettent aux hommes et aux femmes de se parler en vérité. Au début de cette histoire, on voit que Jésus est demandeur. Il ne se place pas au-dessus de cette personne qu'il rencontre, comme celui qui sait et qui donne, pourtant c'est le cas. Non, il se place comme celui qui a soif et qui a besoin de son aide pour boire. La conversation va commencer autour de l'eau avec une suite de malentendus, puisqu'on se rend bien compte qu'ils ne parlent pas tous les deux de la même eau. Hein. L'évangéliste est en fait en train de nous conduire au-delà de cette simple eau du puits. Cette eau dont il est question dans la suite de l'Évangile, hein, on la retrouve par exemple dans l'eau qui va sortir du côté de Jésus sur la croix. Une eau, nous dit le texte, qui apporte la vie, la liberté, la joie, l'eau donnée par Dieu qui étanche la soif jusque dans l'éternité. Et une eau, comme le dit Jésus ici, qui devient une source de vie dans celui qui la boit. On a parlé la semaine passée du corps de Jésus comme nourriture et du fait que symboliquement, ça voulait dire s'attacher à Christ, demeurer en lui et que lui demeure en nous. Et c'est un peu la même chose avec l'image de l'eau, hein. On peut devenir une source d'eau vive si on s'abreuve à la source d'eau. Ça veut dire si on lit la parole de Dieu, si on reste à proximité du Christ, si on fait en sorte que Christ demeure en nous et nous en lui. Alors cette eau nous remplit et elle déborde, c'est l'idée en fait. Hein. L'idée c'est le débordement qui va permettre à d'autres de bénéficier aussi de cette source-là. Cette eau symbolise aussi l'esprit de Jésus, l'esprit qu'il veut donner à ceux qui croient, un esprit de force et de vie qui transforme les croyants en hommes libres, non enfermés dans des préjugés ou des peurs, une force qui en fait des témoins capables de franchir les frontières et de donner l'espérance à ceux qu'ils rencontrent. Voilà tout ce que Jésus propose à cette femme et en général à tous ceux qu'il rencontre. Étancher leur soif de vie en leur donnant l'esprit, puissance qui efface la peur, les barrières et qui remet debout. Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te parle, dit-il. On voit là qu'il quitte la position de celui qui demande pour devenir celui qui propose et qui offre quelque chose à la femme. Jésus attend d'être reconnu comme ce don de Dieu aux hommes. L'apôtre Paul, dans le passage de l'Épître aux Romains que nous avons entendu, appelle cela la confiance ou la foi. Jésus ouvre l'accès à Dieu par un chemin qui n'est ni étriqué, ni rempli d'exclusion ou de condamnation. Et souvent, nous nous laissons tenter par des exclusions pour insister sur les différences. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence, hein. Mais ce que Jésus est venu offrir, c'est un accès, avant tout. La femme rappelle ces différences à Jésus. Vous, vous adorez à Jérusalem et nous sur une montagne. Et on voit que Jésus ne les nie pas, ces différences. Elles existent et il affirme même que les Juifs savent qui ils adorent. Parce que le salut vient des Juifs, dit-il. Ça sous-entend quand même que non seulement la différence existe, mais qu'elle dit quelque chose. Hein. Et en même temps, sans vraiment relativiser, il annonce déjà autre chose puisqu'il dit « Il n'en sera pas toujours ainsi. Les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Ce sont ceux que le Père recherche. » Pour Jean, cette rencontre de Jésus avec la Samaritaine, elle annonce en fait et elle préfigure la mission que va être celle de l'Église auprès des non-juifs. Cette mission d'aller ouvrir l'accès, d'aller offrir, parler du don de Dieu. C'est relativement progressivement que Jésus va révéler à la femme sa véritable identité. Et a priori, au début de l'histoire, on n'a vraiment rien qui indique quand cet homme se cache un sauveur, puisqu'il a besoin de s'arrêter, de s'asseoir parce qu'il est fatigué. Il a envoyé ses disciples chercher à manger, sûrement parce qu'il avait faim. Hein. Il a besoin de demander qu'on lui donne à boire, sûrement parce qu'il a soif. Ce n'est qu'au cours de l'échange que va se manifester au fond du cœur de la femme samaritaine, tout d'un coup, une intuition, une étincelle de l'identité de celui qu'elle a en face d'elle. C'est elle qui commence à parler du Messie, et c'est Jésus qui se révèle. Dans la Bible, Dieu lui-même se définit comme la source d'eau vive, et dans l'évangile de Jean, à plusieurs reprises, c'est Jésus qui est décrit comme la source d'eau vive. Dans Jean, au chapitre 6, on a cette parole « Celui qui croit en moi n'aura jamais soif ». Et pour saisir la vraie vie qui est proposée par le Christ, il est utile de se plonger dans la fin de l'histoire pour se rendre compte que celle qui a bu à cette source d'eau est devenue quelque part une source d'eau pour ceux et celles qu'elle va rencontrer. Hein, on le voit bien au début, les gens à qui elle est allée parler croient à cause de la parole de la femme. Et puis la vraie réalité qui est recherchée quand même, c'est que les gens croient directement parce qu'ils ont rencontré le Christ. Hein. Mais parfois ça commence parce que nous leur en avons parlé. Et en général, c'est comme ça que ça commence. C'est son témoignage qui va permettre à d'autres de rencontrer le Christ et de découvrir en lui le Sauveur, le Libérateur dont ils ont besoin. Ce don de Dieu aux hommes, nous l'avons dit, c'est ce que Paul décrit dans l'Épître aux Romains, sauf que Paul ne le fait pas sous la forme d'un récit, et donc c'est parfois plus difficile à saisir. Il le fait plutôt sous la forme d'un exposé théologique. Et pourtant, dans ces deux textes, c'est le même thème, la même lumière, une lumière extraordinaire qui est mise sur la personne du Christ et sur son œuvre. L'Épître aux Romains, c'est la dernière qui est connue de Paul, et ça n'est pas une lettre de circonstance. Elle s'adresse à une église qu'il n'a pas directement fondée, dont il sait qu'elle est composée de païens et de juifs, mais qu'il ne connaît pas personnellement, contrairement à d'autres lettres où ce sont des amis, des gens qu'il connaît. On a donc dans cette lettre un exposé vraiment complet de sa théologie. Et il nous faut, quand on la lit, entrer dans son raisonnement dès les premiers chapitres, et en particulier garder à l'esprit l'affirmation centrale de cette lettre, qui est celle de la justification par la foi. Être justifié, c'est être reconnu comme juste. L'homme ne peut pas être juste par ses propres efforts, bien qu'il passe son existence à tenter de justifier ce qu'il fait, ce qu'il est, pourquoi il agit comme ça, pourquoi même il existe. Et même face à la divinité, on se rend compte que l'homme souvent est en train de négocier son bonheur, sa vie, le salut, par l'accomplissement de rites ou de prescriptions. Ça, c'est la misère de l'homme, hein. La bonne nouvelle, c'est que Dieu lui-même a eu pitié de l'être humain et que par Jésus-Christ, les rapports des hommes ont été transformés. Désormais, l'homme est lié à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Autrement dit, en acceptant de ne plus compter sur lui-même mais de mettre sa confiance en Dieu. L'être humain n'a plus besoin de justifier de son salut, de son existence par ses propres efforts. Mais il est aimé, accepté, sauvé par Dieu à partir du moment où il croit dans l'œuvre du Christ, l'œuvre de salut. La seule réponse de l'homme à son Dieu, et c'est ce que Paul va développer tout au long de sa lettre, c'est la foi. Et là, on a un exemple vraiment percutant dans le Christ, hein, puisque sa façon de vivre était vraiment une vie de confiance, d'ouverture à Dieu, d'écoute, de recherche de sa volonté. Une confiance qui a été totale, hein, et on le voit quand finalement les disciples reviennent avec la nourriture dont il a besoin. Il dit « J'ai déjà une nourriture, celle de faire la volonté de Dieu, de mon Père. » Jésus, qui est pour le croyant le seul chemin à suivre, le seul modèle parfait, gardons-nous d'en trouver d'autres. La première conséquence de cette justification par la foi, qui est vraiment un thème cher aux réformateurs, hein, la justification par la foi, c'est ce qui fonde l'existence même de la réforme. La première conséquence de cette justification par la foi, c'est la paix avec Dieu. Et peut-être qu'on n'insiste pas suffisamment là-dessus, mais ce texte nous le dit noir sur blanc. À cause de Jésus-Christ, grâce à Jésus-Christ, nous sommes en paix avec Dieu. Est-ce qu'on mesure la force de ce cadeau-là ? C'est un acquis, c'est un don de Dieu pour le croyant. Avec le Christ, la paix est donnée. Et si nous cherchons la première proclamation de l'Évangile par les anges aux bergers de Bethléem, c'est ce qu'ils disent, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. » Paul précise que nous sommes en paix avec Dieu. Nous le sommes, en croyant. C'est donc que notre relation à Dieu est d'un nouvel ordre à cause de la justification par la foi. Est-ce que ça veut dire qu'avant Christ, les hommes n'étaient pas en paix avec Dieu ? Eh bien oui, c'est ce que ça veut dire spirituellement. Il nous faut poser la question de notre relation à Dieu, qui est bien souvent marquée par la culpabilité, par le désir de bien faire, le désir de plaire, et par l'image quand même qui continue malheureusement de circuler, hein, d'un Dieu vengeur et punisseur, on l'entend surtout dans la bouche des gens qui ne croient pas en Dieu en l'occurrence. Qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter ça, par exemple ? Nous sommes en paix avec Dieu. Ça veut dire que son pardon et son amour nous précèdent et nous sont acquis par le sang de Christ. Pour autant, évidemment, que nous les acceptions pleinement pour nos vies. Voilà une autre façon de dire que nous sommes justifiés par la foi. La violence, c'est la lutte des hommes et de Dieu. C'est du passé en croyant. C'est derrière nous. Parce que c'est Jésus qui a payé le prix et qui nous a acquis cette réconciliation. Nous sommes en paix avec Dieu, cela permet également aux chrétiens de vivre les temps d'épreuve différemment. Et c'est le sujet que développe Paul ensuite, dans le petit texte que nous avons lu. La détresse, l'épreuve, la souffrance ne sont pas des causes de joie ou des situations à rechercher pour en tirer, je ne sais pas d'ailleurs quel profit. Paul a lui-même souffert de plusieurs manières et il n'en parle jamais comme de quelque chose de bien. Mais il rend compte de son expérience en revanche pendant la détresse. Et il en rend compte avec les mots de persévérance, de patience, de fidélité, de résistance et enfin d'espérance. Et ça par contre, ce sont des choses positives. Ce sont les fruits qui sont positifs, pas la souffrance en elle-même. Pour Paul, évidemment, c'est du vécu. Humainement parlant, ça n'est pas conseillé de dire à quelqu'un qui souffre qu'il doit se réjouir. Mais parce qu'ils se savent aimés de Dieu, parce qu'ils se savent acceptés par le Seigneur tels qu'ils sont, parce qu'ils sont en paix avec Dieu, eh bien, certains croyants traversent les temps d'épreuve avec patience, avec une fidélité ou une foi constante et gardent l'espérance. C'est un constat et un encouragement pour les sœurs et les frères parmi nous qui vivent des difficultés, parmi nous et plus largement aussi. Paul enchaîne son raisonnement de la persévérance à la fidélité, à l'espérance, à l'amour. Et ça, c'est le propre du chrétien. Il espère parce qu'il est aimé, justifié, accepté par Dieu et en paix. Et en fait, quand on est en paix, on ne peut qu'espérer. On n'attend pas quelque chose qui fait peur, voilà. On attend quelqu'un déjà, quelqu'un qu'on aime et qui nous aime. D'après Paul, l'espérance a comme fondement l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Un peu comme s'il disait « l'espérance est nourrie par l'amour » et « l'espérance s'exprime par l'amour ». Alors on retrouve souvent ces trois mots, hein, notamment dans les écrits de Paul, la foi, l'espérance et l'amour, qui constituent pour lui le fond de la vie chrétienne. Trois éléments qui s'appuient, qui s'appellent l'un l'autre, parce qu'ils reposent tous les trois sur l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Alors peut-être le verset auquel on pense le plus, c'est le verset de 1 Corinthiens 13, qui nous dit « Ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. » L'espérance qui nous est présentée par Paul comme une valeur sûre, et l'espérance biblique qui correspond à l'attente confiante d'un avenir donné par Dieu. Une espérance qui est liée par la foi, c'est-à-dire croire ce que l'on ne voit pas encore. Mais on sait que ça arrive. C'est la capacité, en fait, à voir au-delà des circonstances présentes, à lever la tête même au creux de la tempête, à ne pas baisser les bras dans l'épreuve. Espérer, c'est croire que je suis aimée, même quand tout va mal pour moi. C'est croire que j'ai de la valeur, même quand je perds mon travail, mes amis, mes repères. Espérer, c'est mettre ma confiance en Dieu plutôt qu'en mes propres forces. Espérer, c'est accepter mes faiblesses et mes épreuves comme le temps où Dieu me parle au cœur et me donne de me relever. Espérer, c'est vivre mes propres temps de deuil et de nostalgie avec la tranquille assurance que la vie triomphe encore de la mort. Voilà, je pourrais continuer, hein. L'espérance chrétienne repose sur la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pas sur un détail, un événement, une chose, aussi belle soit-elle. Hein. L'espérance repose sur la personne de Jésus. Le Christ est mort pour nous. C'est une affirmation sur laquelle on est revenu dimanche dernier, et une affirmation que nous répétons peut-être parfois un peu rapidement, je ne sais pas. Mais c'est le moment de comprendre ce que cela veut précisément dire, et le texte nous y aide. Paul nous met un peu les points sur les i dans ce chapitre, et il nous dit en fait donner sa vie, ça s'est vu, ça se voit, même si c'est exceptionnel, mais ça implique en général une relation privilégiée. On donne sa vie pour ceux qui nous sont confiés, pour ceux que l'on aime, pour les siens. Pour des inconnus, c'est douteux. Pour ceux qui nous refusent et qui se détournent de nous, jamais. Jamais. Or, c'est ce que Dieu a fait pour nous en Jésus. Voilà le raisonnement de Paul, et c'est assez formidable quand même. En quelques mots, comme il nous décrit cette œuvre-là. Depuis qu'il y a des hommes sur terre, l'objet premier de leur amour, sauf exception, rare exception, c'est eux-mêmes. Les hommes s'aiment eux-mêmes. Ils se préfèrent à tout et à tous. A fortiori à Dieu, qui donne ses commandements, qui exprime des volontés. Rien ne se passe comme il faudrait. Dieu, l'homme, pardon, ramène tout à lui, alors qu'il était créé pour être à Dieu. C'est l'échec, l'opposition, l'égoïsme qui engendre la colère. Dieu se fâche. On le voit dès le début de l'Écriture. Hein. Il se fâche, mais il continue d'aimer parce que tout de suite, il élabore un plan. Un plan de réconciliation. Oui, ce plan de salut naît avec la création. Il faut qu'un homme vienne attester qu'il n'est pas de plus beau destin que de servir Dieu, c'est-à-dire de l'aimer et d'aimer son prochain. Vivre pour Dieu a plus d'importance que tout. Cela vaut la peine de donner sa vie pour d'autres que soi, même pour d'autres qui ne le demandent pas ou n'en veulent pas. Voilà ce qu'est venu dire le Seigneur Jésus. Au temps fixé, dit l'apôtre, c'est-à-dire selon le plan du salut établi par Dieu de toute éternité, le Christ est mort pour nous, et ça, c'est l'œuvre et le bon plaisir de Dieu. Le Christ est mort pour nous, c'est la réconciliation avec Dieu. Une humanité nouvelle est née, et elle est pour nous. Nous pouvons y entrer, nous pouvons en être. La porte, c'est le Christ, et la démarche, c'est la foi. Faire confiance à celui qui nous révèle ce pourquoi nous sommes faits, ce que nous sommes aussi, au fond de nous-mêmes, hein, on le voit avec la Samaritaine. Je sais ta vie, je sais qui tu es, même ce que tu veux cacher, je le sais. Le suivre, c'est retrouver notre juste place dans le monde, c'est être justifié, réconcilié. Alors l'Évangile, tout au long des rencontres qu'on voit Jésus faire avec d'autres, raconte comment des malades ont été guéris, comment des exclus se sont sentis acceptés, comment des coupables ont trouvé le pardon, comment l'espoir est revenu là où Jésus était présent, comment une femme samaritaine a découvert sa valeur aux yeux de Dieu. Et ce que les évangélistes ont transmis, ce ne sont pas seulement des événements du passé, lorsque Jésus a vécu sur terre, mais ça concerne aussi notre présent. L'Église, rappelons-le, est placée sous la seigneurie du Christ crucifié et ressuscité. Elle n'est pas un électron libre. Elle a un maître, un berger, un conducteur, une tête, un chef. La paix avec Dieu est autre chose que de la résignation ou une simple béatitude. L'Église et le croyant vivent sous le signe de la croix et dans la lumière de la résurrection. Cette paix avec Dieu signifie que notre position vis-à-vis de lui a changé radicalement. De coupables destinés à la condamnation, nous sommes devenus des graciés, des justifiés, ayant la possibilité de s'adresser librement à Dieu comme à leur Père et non plus comme à un juge. Un Père qui reste présent à nos côtés dans les moments de joie comme dans les moments de souffrance, Et c'est sa présence que nous célébrons chaque culte, chaque dimanche, premier jour de la semaine, jour de la résurrection. C'est cette présence-là qui nous fortifie, qui nous renouvelle, qui nous vivifie et qui nous sanctifie. Alors merci Seigneur pour ce don si merveilleux, le don d'eau vive, le don de la paix, le don de la réconciliation, le don de la foi, tout cela offert en Jésus. Amen.